est 19h. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par le groupe Angevin d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, Philippe et Sophie, bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir l'équipe.
Et bonsoir Pierre à la technique, comme
bonsoir
un grand.
À tous.
Salut. Ravi de vous retrouver. Et dans cette émission, Philippe, tu as choisi de nous parler du Danemark et de sa politique migratoire. Hein, un sacré sujet. Et puis on écoutera notre invitée. Elle s'appelle Sonia et elle a créé l'initiative solidaire La Part de Plus. On a aussi une petite surprise, c'est une chronique de Céline. Et puis ensuite, nous passerons en revue l'actualité nationale et internationale et nous finirons la demi-heure par un tout petit agenda culturel et militant. Alors aujourd'hui, Philippe, tu as choisi d'enquêter sur la politique migratoire ultra restrictive du gouvernement social-démocrate danois.
Dans les années 2010, l'excellente série télévisée Borgen, une femme au pouvoir, que vous avez peut-être vue, mettait en scène une première ministre centriste intègre sur fond d'intrigues politiciennes. La réalité de 2020, hélas, est plus brutale. L'actuel chef du gouvernement danois, Mette Frederiksen, s'est fixé comme objectif d'atteindre zéro demandeur d'asile. Entre 2017 et 2020, le Danemark n'a pas accueilli un seul migrant dans les quotas préconisés par l'ONU, alors que les recommandations des Nations Unies étaient de 500 réfugiés par an. Pour comparer, la Norvège, qui a même eu un gouvernement d'extrême droite et dont la population est légèrement inférieure à celle du Danemark, accueille 3000 réfugiés chaque année. En 2020, le Danemark en a accueilli 30. En 2021, il est question de recevoir 200 réfugiés, principalement des chrétiens venant de camps de rétention au Rwanda.
Et ce gouvernement veut construire des clôtures aux frontières de l'Europe.
Il le dit et il le fait. 15 kilomètres de fil barbelé, voilà le généreux cadeau du Danemark à la Lituanie. Une contribution certes symbolique à l'échelle des 500 kilomètres de frontière avec la Biélorussie, mais le 28 septembre, son ministre de l'immigration, lui-même fils d'un réfugié éthiopien, est allé inspecter la clôture. Les barbelés ne sont pas des fils classiques, mais un modèle spécial en accordéon, couvert de lames similaires à celles d'un rasoir, pouvant causer des blessures mortelles.
Ah, c'est terrible. Ouais. Le ministre n'en est pas à son premier coup de force.
C'est à sa demande que les services de l'immigration ont suspendu ou retiré les titres de séjour et révoqué la protection temporaire de plusieurs centaines de réfugiés syriens ces derniers mois, en dépit du fait qu'ils risqueraient d'être torturés, soumis à des disparitions forcées et à des détentions arbitraires en cas de renvoi en Syrie. En effet, le Danemark considère désormais que Damas et ses environs sont des zones sûres. Or, cette appréciation est contraire à l'évaluation des experts internationaux sur la Syrie et du Haut Commissariat pour les réfugiés. Alors qu'elles ont fui une zone de guerre, ces personnes sont maintenant confrontées à la perspective inquiétante d'un retour forcé en Syrie ou d'un placement dans un centre de retour dans l'attente de leur expulsion.
Et une autre loi va aller encore plus loin.
Votée au Parlement en juin, elle devrait permettre à Copenhague d'externaliser l'asile dans des pays tiers en dehors de l'Europe. Le Rwanda ayant été pressenti. Oui, le Rwanda, vous avez bien entendu. Le Danemark a franchi mercredi 15 décembre une nouvelle étape dans sa gestion calamiteuse des étrangers. Le ministre de la Justice a annoncé que le pays nordique prévoit de louer 300 places de prison au Kosovo pour y interner les citoyens étrangers condamnés au Danemark et qui doivent être expulsés vers leur pays d'origine après avoir purgé leur peine. L'accord a été confirmé dès le 16 décembre par la ministre kosovare de la Justice. L'objectif clairement affiché est d'augmenter la capacité des prisons danoises pour pouvoir accueillir un millier de détenus supplémentaires.
Et comment réagissent les défenseurs des droits humains ?
Amnesty International a accusé le gouvernement danois de faire preuve d'un déni de la réalité face à la crise migratoire actuelle. Le quotidien de gauche Politiken a dénoncé de son côté le cynisme du gouvernement. La directrice de l'Institut danois des droits de l'homme rappelle que le Danemark ne peut pas exporter ses responsabilités légales et devra faire en sorte que les droits des prisonniers soient respectés. Mais ces mises en garde ne semblent pas affecter l'exécutif danois. Le but recherché est de décourager au maximum les demandeurs d'asile de rejoindre le pays. Le Danemark devient ainsi un laboratoire politique glaçant, celui d'une Europe encore plus isolationniste qui aura perdu tout sens de la solidarité.
Merci Philippe. Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Et nous accueillons maintenant Sonia de l'initiative La Part de Plus. Alors, comme elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, l'interview a été enregistrée mardi soir.
Bonjour Sonia, merci de m'accueillir chez toi.
Bonjour.
On est là pour parler d'une initiative solidaire que tu as lancée il y a déjà quelques temps. Tu veux bien nous en parler ?
Alors, La Part de Plus, je l'ai créé avec ma sœur en mai de l'année dernière, pendant le confinement, parce que c'était le confinement, et puis on savait que les sans-abri ne pouvaient plus faire la manche, et donc j'ai eu envie de faire quelque chose, de me rendre utile, et on s'est dit qu'on allait réfléchir à quelque chose qu'on pouvait faire à la maison, quelque chose de simple, et donc cuisiner ou mettre un repas de côté. Quand on a cuisiné et ensuite d'aller le distribuer aux sans-abri, ça me paraissait assez simple pour agir à notre niveau, même en étant coincé chez soi.
Alors, les sans-abri, en fait, tu les rencontrais dans des lieux particuliers ? Tu les avais repérés à l'avance ?
Oui, tout simplement en regardant autour de soi, dans la rue, c'est facile. Et c'était un petit peu plus compliqué pendant le confinement parce qu'ils étaient plus cachés dans les parkings, il fallait chercher un petit peu. On avait plus de mal. Mais après, quand on commençait à les connaître, on savait où les trouver.
Et aujourd'hui, donc ça s'appelle La Part de Plus, et il n'y a pas que toi et ta sœur qui font la cuisine.
Non. Alors, il y a à peu près, je dirais, une vingtaine de personnes qui se relaient tout au long de l'année. Ça dépend, c'est fluctuant. Donc là, en ce moment, je pense qu'on est à 8 personnes, par exemple, qu'on voit régulièrement. Et puis, au niveau des livreurs, on est à peu près une dizaine. Pareil, ça, on se relaie selon les disponibilités de chacun. Il n'y a aucun engagement. On fait selon le temps qu'on a et l'envie aussi.
Donc les livreurs, j'ai la chance de faire partie des marmitons, des marmitonnes, je sais pas si c'est au féminin, mais voilà. Et les livreurs ou les livreuses sont toujours venus à bicyclette, donc il y a aussi un petit enjeu écolo alors.
C'est ça, ah oui, c'est sans voiture. Donc le vélo, parce que c'est pratique à vélo de se déplacer, de repasser dans des rues, etc. À pied, c'est un petit peu plus compliqué pour l'avoir fait, et ça fait des distributions de 3 heures. Ça, c'est beaucoup trop long, donc c'est vrai qu'on fait ça à vélo.
Très bien. Donc, de façon très pragmatique, le dimanche soir et le mardi soir, tu envoies un formulaire.
Sur le groupe Facebook, je poste un formulaire qui permet aux personnes qui le souhaitent, en 20 secondes, de renseigner leur nom, leur adresse, combien de plats elles vont faire. Et après, il y a une équipe de livreurs qui reçoit une carte avec les adresses dessus, toutes les infos. Ils se positionnent, ils prennent contact avec le marmiton, ils vont chercher le repas le mardi soir et le jeudi soir.
Et c'est uniquement pour certains quartiers, en fait ?
Ça dépend des disponibilités des livreurs. C'est eux qui me disent sur quel quartier ils ont envie d'aller. C'est pas moi qui décide.
D'accord. Et dans le sac ? Donc, on met un repas complet.
Exactement. Donc, c'est bien une entrée, un plat, un dessert avec des couverts. Et il faut que ce soit chaud au moment de la distribution. C'est une question qu'on m'a souvent posée. Oui, il faut que ce soit chaud, surtout l'hiver. Et c'est aussi simple que ça. On peut rajouter un petit mot. On peut faire une photo et la poster sur le groupe Facebook si on a envie de partager. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Sur Facebook, le nom, c'est La Part de Plus, tout attaché, je crois.
La Part de Plus, non, c'est en 4 mots.
En 4 mots.
Et c'est, vous pouvez aussi retrouver le groupe sur Instagram.
Est-ce que tu as estimé le nombre de repas qui ont été distribués, par exemple, pour l'année 2021 ?
Oui, tout à fait, parce que je compte, c'est facile, avec mon outil Google. Donc, nous sommes à presque 700 repas. depuis janvier, en sachant qu'on a fait une pause de 3 mois, juin, juillet, août. Donc voilà, presque 700 repas.
Mais je crois qu'il y a un autre combat qui est important pour toi.
Oui, parce que dans la rue, il n'y a pas que les sans-abri, le sans-abri qu'on voit faire la manche en allant au boulot. Il y a aussi un public qu'on ne voit pas beaucoup, alors qui est moins nombreux, certes, mais qui se retrouve quand même à la rue, c'est le public des jeunes mineurs isolés, mineurs non accompagnés. Quand ils se retrouvent en fin de prise en charge, les hôtels dans lesquels ils ont été mis à l'abri, les remettent à la rue, en fait. Et on ne les voit pas, mais voilà, ils sont là. Donc, effectivement, il n'y a pas la partie repas pour ces jeunes-là, mais par contre, il y a des hébergements d'urgence. Et donc, je lance un appel. S'il y a des gens qui sont intéressés pour offrir un week-end de répit à des jeunes qui sont dans des hôtels depuis très, très longtemps et qui ne font pas grand-chose, ou des personnes qui auraient envie d'accueillir, d'ouvrir leurs portes, partager quelque chose de chouette avec un jeune, que ce soit pour un week-end ou quelques jours, plus après, si ça se passe bien. Voilà, on peut me contacter aussi sur Instagram ou sur La Part de Plus et je me ferai un plaisir d'échanger sur cette expérience.
Et parmi ces jeunes, donc il y a garçons et filles.
Il y a surtout des garçons. Pour l'instant, c'est surtout des garçons que j'ai eu l'occasion d'aider, en fait. Donc, grâce aux dons de La Part de Plus, je lance des appels régulièrement pour des vêtements et aussi pour des nuits d'hébergement en urgence quand il y a besoin.
Et ces jeunes-là viennent de quel pays? Est-ce que tu peux tracer un petit profil géographique alors de leur arrivée, de leur pays d'origine?
Alors, beaucoup viennent d'Afrique de l'Ouest et un petit peu d'Afrique subsaharienne, et puis aussi Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, en majorité.
Et pour les démarches, alors, est-ce que tu les accompagnes ou tu t'intéresses surtout à les sécuriser en quelque sorte au niveau hébergement ?
Non, je ne m'occupe pas du tout des démarches. J'aime bien en fait créer un lien rassurant, donc un lien de confiance. Je les accompagne par exemple à la tente Solidary Food, je leur explique où ils peuvent trouver des points de nourriture gratuits. J'aime bien aussi les emmener à la bibliothèque. C'est quelque chose qu'ils ne font pas. Et puis sinon, quoi d'autre? Le marché. J'aime bien aussi les emmener au marché. Des fois, ça peut être aussi du soutien scolaire. Enfin, c'est très vague. Je fais ça un peu à l'instinct. J'ai pas de règles pour le moment, vraiment par rapport à ces jeunes-là, par rapport à l'accompagnement. La priorité, bien sûr, c'est déjà de qu'ils dorment pas dehors.
Juste pour rappel, pour les mineurs isolés, on sait qu'il existe depuis longtemps, tout près d'Angers, à Saint-Sylvain, un squat. Et qui accueillent déjà, je ne sais pas, ils sont combien, des mineurs isolés, et ça fait quelque temps déjà que ça existe.
Alors ça, c'est plus avec l'association Asile et Partage. Moi, je ne suis pas en contact avec ces jeunes-là, mais je ne sais pas s'ils sont une vingtaine ou un petit peu plus. Mais d'ailleurs, l'association Asile et Partage, c'est une super association. N'hésitez pas à la soutenir et à aller voir la page Facebook. Ils font un travail incroyable, ces bénévoles, pour ces jeunes.
Et il y a d'autres associations avec qui tu es en contact? Je crois qu'il y a le Secours catholique, peut-être?
Un petit peu le Secours catholique, oui. Mais sinon, pour le moment, à part quelques... Des fois, des assistantes sociales ou des infirmières scolaires, pour l'instant, c'est tout.
D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous redire comment faire pour te contacter, que ce soit pour la préparation des repas, donc les mardis et les jeudis soirs, que ce soit pour être livreur ou livreuse, ou bien pour héberger, donner un coup de main, pour entourer, donner de l'amour à ces mineurs isolés à Angers. Vas-y, dis-nous tout.
Pour préparer un repas ou plusieurs repas, il suffit de regarder soit la page Instagram ou le groupe Facebook et de regarder quand il y a le formulaire et de le remplir. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un a envie de distribuer les repas, il suffit de me contacter. Mon pseudo, c'est Sonisia, que ce soit sur Instagram ou
tu
Facebook.
Peux l'épeler ?
Sonisia. De toute façon, c'est marqué administrateur, donc c'est facile. Et puis, concernant l'hébergement, c'est pareil. Il faut me contacter en privé, c'est mieux, directement, pareil, sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup Sonia, et puis passe de bonnes fêtes de fin d'année.
Merci beaucoup, bonne fête aussi à toi et à tous les auditeurs et auditrices.
Et nous nous retrouvons après une pause musicale.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Lève des kilomètres, 7 kilomètres, 700. Je vous laisse mon nom, je suis navire, car avant vous de la Chine, je suis mauritanien. Mais j'ai un bâche de plaisir, la radiaque, voilà.
Et vous venez d'entendre Clandestino de Manu Chao. Merci Pierre pour ce joli choix. J'ai un cadeau de Noël pour vous. Vous vous souvenez de Céline, notre chère chroniqueuse du chemin de traverse? Eh bien, elle nous offre aujourd'hui une nouvelle intervention de son cru.
Bonsoir Valérie. Comme tu le dis, il était temps de donner des nouvelles des veilleurs du chemin de traverse. Les veilleurs qui, depuis la crise qui a bouleversé nos quotidiens et nos engagements, sont restés en alerte. Beaucoup de personnes sans hébergement ont été mises à l'abri et le collectif a encore une fois été inventif pour continuer à garder le contact avec ceux que nous rencontrions au chemin de traverse. Contes et marionnettes ont trouvé des spectateurs sur le parking des hôtels, jeux, activités artistiques, musique, et avec l'aide du Secours Populaire, distribution des essentiels du quotidien. Et puis, au mois de novembre, nous sommes repartis en maraude à la rencontre des personnes de la rue, et nous avons croisé des habitués, ceux qui dorment en pleine lumière et sur des cartons à la gare pour être en sécurité, ceux qui attendent le dernier moment pour rejoindre un parking ou une porte, assis ça et là et laissant leurs affaires dans des poussettes, ceux qui se regroupent proches des bains-douches pour être sûrs d'être prêts le lendemain au risque de dormir dans le froid, et puis des rencontres impromptues, celle de B qui pleure son amie Zabou, morte de la rue, parking Bressigny, celle de mineurs non accompagnés, souriants et insouciants mais pleins d'errance, celle de ses formes allongées sous des duvets, sous le pont du tramway, une grande, une plus petite, et des chaussures bien rangées, des chaussures de femmes et d'hommes. Tu vois, rien n'a tellement changé.
Vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM et c'est le moment des actualités des droits humains. Sophie, tu vas nous parler de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks.
Oui, samedi 18 décembre, un rassemblement a eu lieu place du Trocadéro à Paris pour le soutenir. En effet, la Haute Cour de justice britannique, qui s'était dans un premier temps opposée à son extradition vers les États-Unis, vient de l'approuver. S'il survit aux conditions de détention qui l'attendent, il reste qu'il ne pourra pas échapper à la peine de 175 ans de prison, compte tenu des charges qui pèsent injustement sur lui.
175 ans. Mais de quoi est-il accusé ?
Il est accusé d'espionnage pour avoir publié des informations révélant notamment des crimes commis par le gouvernement américain à Guantanamo, en Irak et en Afghanistan. Les avocats de Julian Assange devraient déposer prochainement un recours. Son éventuelle mise en accusation constitue un véritable danger pour tous les lanceurs d'alerte, la liberté d'expression et le droit à l'information.
Philippe, parlons maintenant des révélations du média Disclose concernant les relations franco-égyptiennes.
Au nom de la lutte conjointe contre le terrorisme, une mission aurait été initiée entre la France et l'Égypte en 2015, l'opération Sirli. Sur le papier, le rôle de la France était d'être les yeux et les oreilles des forces égyptiennes à la frontière égypto-libyenne grâce à un avion de surveillance et de reconnaissance. En vérité, cet avion a servi à cibler et détruire des pick-up conduits par des contrebandiers. L'Égypte s'est ainsi félicitée de la destruction de 10 000 voitures remplies de terroristes et de trafiquants. Les documents transmis à Disclose appuient cette...
Déclaration.
Ainsi, des centaines de personnes auraient été tuées, dont une partie potentiellement grâce à la complicité française. Selon Disclose, la France aurait maintenu cette opération dans le but de pouvoir continuer à vendre des armes et des technologies de surveillance à l'Égypte.
Toujours en France, Sophie, des avocats s'engagent pour le droit d'asile.
En effet, des avocats plaidant à la Cour nationale de droit d'asile, ont engagé un mouvement de contestation depuis le 4 octobre dernier à l'appel de l'association Elena France. Ils dénoncent l'usage abusif des décisions de rejet des recours par ordonnance, c'est-à-dire sans audience, ainsi que les atteintes répétées aux droits de la défense. Par exemple, des demandes émanant des ressortissants d'Afghanistan, du Bangladesh, de la Guinée ou de la Mauritanie ont été rejetées sans raison valable. De même pour des primo-demandeurs d'asile mettant en avant leur orientation sexuelle.
Allez, on part au Chili, on va se réchauffer le cœur. Victoire historique du candidat de gauche.
À la tête d'une vaste alliance allant du Parti communiste au centre-gauche, Gabriel Boric, l'ex-député et ancien leader étudiant de 35 ans, a remporté largement l'élection présidentielle avec 56% des voix contre le candidat d'extrême droite. Il a promis d'instaurer un État-providence et de faire du Chili le tombeau du néolibéralisme. Si ce modèle mis en place sous la dictature a été amendé, il n'a en fait jamais été profondément remis en cause au cours de ces 30 dernières années. Les quelques 15 millions d'électeurs appelés aux urnes étaient amenés à choisir entre deux modèles radicalement opposés pour cette première élection depuis l'inédit mouvement social contre les inégalités de 2019. Principal acquis du mouvement, une assemblée élue en mai 2021 planche actuellement sur l'écriture d'une nouvelle loi fondamentale en remplacement du texte actuel hérité de la dictature Pinochet.
Et viva Chile !
Oui.
Direction maintenant la Birmanie, Sophie.
Oui, la conseillère d'État birmane Aung San Suu Kyi, tout le monde la connaît aujourd'hui, a été condamnée à 2 ans de prison pour incitation aux troubles publics et non-respect des restrictions liées au Covid-19. Une parodie de justice. Elle avait été arrêtée le 1er février 2021 lors du coup d'État de l'armée birmane. Les lourdes peines infligées à la conseillère d'État sur la base d'accusations infondées illustrent une nouvelle fois la détermination de la junte à éliminer toute opposition et à asphyxier les libertés du Myanmar. Depuis le coup d'État militaire de février, plus de 1300 personnes sont mortes et plus de 10 000 ont été arrêtées.
Et on revient à Angers, Philippe. Alors, comment s'est déroulée l'audience du 9 décembre pour Marc, accusé d'entrave à la circulation ? Tu étais présent, je crois.
Et oui, effectivement, nous étions plusieurs membres d'Amnesty rassemblés devant le palais de justice d'Angers, en compagnie d'Attac, de la CGT, du mouvement de la paix notamment. Nous avons à cette occasion lu un texte qui expose les multiples atteintes au droit de manifester. Entre 2018 et 2020, les forces de l'ordre et le ministère public ont instrumentalisé le droit pénal et se sont appuyés sur des lois très générales pour arrêter et poursuivre des milliers de manifestants qui n'avaient commis aucun acte violent et qui, de ce fait, se sont retrouvés pris dans le dédale du système judiciaire. Un arsenal législatif a été déployé pour arrêter et poursuivre arbitrairement des manifestantes et restreindre indûment leur droit à la liberté de réunion pacifique en violation du droit international relatif aux droits humains.
Entre le 17 novembre 2018 et le 12 juillet 2019, la police et le ministère public ont placé en garde à vue 11 203 personnes qui avaient participé aux manifestations des Gilets jaunes. Le ministère public a engagé des poursuites contre 5 251 personnes, dont 3 204 ont été déclarées coupables, parfois pour des actes de violence, dégradation volontaire par exemple, mais aussi pour des actes non violents.
Premièrement, des manifestants ont été verbalisés, arrêtés et poursuivis pour l'organisation d'une manifestation sans respecter l'obligation de déclaration préalable, ce qui, dans le droit international, ne doit pas constituer une infraction. C'est un comportement pacifique qui ne devrait pas être puni et qui est garanti par les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression.
Les autorités ont aussi arrêté et poursuivi des manifestants pour outrage à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, alors qu'elles leur reprochaient souvent simplement d'avoir exprimé des critiques, un acte qui relève de l'exercice légitime du droit à la liberté d'expression. En 2019, les tribunaux ont déclaré 20 280 personnes coupables d'outrage à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, y compris dans des contextes de manifestation.
Troisièmement, des centaines de manifestants et manifestantes ont été arrêtés et poursuivis pour participation à un groupement en vue de la préparation de violences. Une disposition introduite dans le Code pénal en 2010 pour lutter contre la violence organisée. Selon les chiffres officiels, 1192 manifestants et manifestantes ont été déclarés coupables de ce délit en 2019. La formulation vague de cette disposition a permis aux autorités de l'utiliser contre des manifestants et manifestantes ou pendant des manifestations afin de les placer en garde à vue et de les poursuivre pour des motifs peu convaincants. Ces arrestations et ces poursuites sont arbitraires car elles se fondent sur une loi formulée en des termes trop vagues et ne s'appuient pas sur des éléments suffisants pour établir la responsabilité pénale des personnes concernées.
Et quatrièmement, les autorités judiciaires ont indûment restreint le droit à la liberté de réunion pacifique de certaines personnes en amont des manifestations, en leur imposant des obligations de contrôle judiciaire dans l'attente de leur procès, qui leur interdisait de manifester ou limitait leur droit de circuler librement. En 2019, les juges ont en outre prononcé dans 4122 affaires des peines complémentaires qui limitaient pendant des mois, voire des années, le droit à la liberté de réunion pacifique et le droit de circuler librement des personnes visées. Ces peines sont manifestement disproportionnées par rapport au chef d'inculpation.
Au terme d'un bref délibéré, la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité a été retenue. L'avocat Angevin relevant une contradiction entre le délit retenu et le respect du droit de manifestation affirmé dans la Constitution. Le ministère public a donc jugé cette demande recevable et a décidé de la confier à la Cour de cassation qui jugera si elle mérite d'être transmise au Conseil constitutionnel. Rendez-vous donc le 22 septembre pour connaître la décision des juges suprêmes.
Et pour terminer ce temps d'actualité, un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui sont venus signer nos pétitions à la médiathèque Toussaint cette année. Malgré les contraintes que vous connaissez, nous avons collecté près de 1000 signatures. Et si vous avez loupé ce rendez-vous, eh bien pas de souci, allez sur le site d'Amnesty International pour signer en ligne. Et nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. C'est le temps de notre agenda militant et culturel. Alors, pas beaucoup de propositions en ces temps festifs.
Au 400 coups, séance spéciale le dimanche 16 janvier à 20h30 pour le magnifique film 120 battements par minute. Un film coup de poing sur la propagation de l'épidémie du sida.
Le jeudi 20 janvier à 20h30 à la MPT Mon Plaisir, vous pourrez aller écouter une conférence gesticulée sur la participation citoyenne.
Et voilà, il est déjà presque 19h30. Le temps de conclure cette émission et de remercier Sonia pour nous avoir présenté La Part de Plus. Si cette initiative vous intéresse et que vous voulez participer, soit en tant que cuisinier, livreur ou bien encore pour proposer un hébergement, allez sur la page Facebook ou sur Instagram de La Part de Plus ou bien de Sonia Sia. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook avec la page de amnesty.angers. Allez, bonne soirée, passez d'excellentes fêtes de fin d'année.
Bonne fête à toutes et à tous.
À bientôt, bonne fête aussi.
www.